Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Nous recevons aujourd'hui Bruno Pinel. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors, nous voici partis pour une demi-heure.
C'est parti.
Pour mieux vous connaître, vous, votre Bretagne, et puis vos écrits, vos ouvrages, extrêmement intéressants. Alors, qui êtes-vous ?
Eh bien, je suis Bruno Pinel, j'ai 70 ans, je suis un ancien médecin hospitalier, et j'avais choisi depuis longtemps de venir en Bretagne pour y planter mes racines. Je suis normand d'origine. Et je connaissais la Bretagne pour les vacances que j'ai passées autrefois et parce que mes parents y ont passé également leur retraite. Ils habitaient à Pontchâteau.
La médecine hospitalière, c'est un peu particulier quand on regarde ça en tant que novice. Mais vous aviez choisi cette profession et je pense que ça vous a plu.
Oui, c'est une passion. En fait, j'avais ce qu'on peut dire une vocation depuis que j'avais 6 ou 7 ans. Et j'ai choisi d'être hospitalier. Je ne voulais pas de la médecine salariale et j'étais multispécialiste. Et pour l'aspect scientifique des choses, donc j'ai vu la belle médecine, mais c'était de la médecine conventionnelle. Et on peut dire que sur la fin, j'ai un peu tourné le dos, trouvant qu'elle était assez étroite, de vue assez étroite, et qu'il y avait aussi autre chose à côté. J'ai fini par faire de la rééducation fonctionnelle avant de venir ici. À la retraite. Maintenant, j'ai un regard assez complaisant pour les médecines traditionnelles du monde, pour les médecines un peu paranormales, et je pense qu'elles sont complémentaires et qu'elles ont leur place. 80% des gens dans le monde sont soignés par des médecines traditionnelles et non pas par une médecine conventionnelle, que je ne renie pas parce qu'elle fait quand même de belles choses.
C'est un avis intéressant que le vôtre là-dessus. Alors, à un moment donné, vous avez décidé de venir vivre en Bretagne. Qu'est-ce qui se cache derrière ?
Eh bien, ma conscience citoyenne, ma conscience politique aussi, a évolué. Et depuis pas mal de décennies, je suis devenu ce qu'on peut très proche de la nature. Et j'étais d'origine normande. La Bretagne me semblait... en plus, la Bretagne me fascinait. Bon, j'ai lu Astérix, bien sûr, mais c'est une vision un peu déformée de la Bretagne. Je me suis beaucoup intéressé aux druides. J'ai une vie intime, une vie spirituelle assez particulière. Et ça me semblait être un territoire très inspiré. Je me sens bien en Bretagne. En plus, sur le plan, comme je suis écologiste... Je me sens bien dans un pays où il y a encore une nature assez préservée, malgré les dégâts de l'agro-industrie, où il y a encore du bocage. Je suis un fan amoureux de la mer. L'aspect un peu finistérien, fin du continent, ça, je peux rester une journée devant la mer sans bouger à regarder l'horizon, quoi. Comme Christophe Colomb qui regarde l'horizon. Donc moi, tout en Bretagne me plaisait, et je suis venu installer mes racines dans un petit village, pas trop près de la mer parce que c'était un peu cher, pas trop au centre, donc partie supérieure du tiers inférieur de la Bretagne, et où j'ai un grand terrain et j'élève des moutons d'Ouessant, des oies qui sont des amis. Je les élève pas pour les manger parce que je suis végétarien, mais pour l'éco-pâturage. Je m'entoure d'animaux et je pratique l'éthologie, c'est-à-dire que je parle avec mes animaux, je parle également avec les plantes et je pratique la permaculture. Voilà, vous savez tout.
Oui, j'allais presque vous qualifier, ce qui est un compliment, justifié d'ailleurs, d'écologiste pratiquant.
Oui, je suis un... Oui, et actuellement d'ailleurs, je prépare... va paraître dans les quelques mois qui viennent le premier tome d'un plaidoyer pour la vie et pour la terre, que je coécris avec ma compagne, et qui est le premier tome, c'est un état des lieux très sommaire, et je travaille actuellement sur le tome 2, qui sera un traité d'écologie politique. Voilà, parce que je conteste l'écologie telle qu'elle est conçue actuellement, et pour cela, toutes mes lectures actuelles sont une lecture à la recherche, Alors je cherche des idées et je vais essayer de faire pour le lecteur, de façon très simple, très compréhensible, une synthèse des thèses écologiques du monde.
D'où mon expression écologiste pratiquant.
Je pratique l'écologie dans ma vie quotidienne, dans l'utilisation, si l'on veut, ou la relation que j'ai avec la nature sur mon terrain et dans ma vie de tous les jours. Oui, je suis pratiquant parce qu'on ne peut proposer un projet écologique et politique qu'en étant conforme avec ce projet dans la vie de tous les jours. Voilà.
Sur le mouton, je vous rejoins, parce que moi aussi j'en ai 5, un mouton d'Ouessant, et c'est assez fantastique, parce que c'est comme des bêtes avec une intelligence assez remarquable, avec leur rythme de vie, et ces temps-ci, je ne sais pas comment sont les vôtres, mais c'est la grande forme, à partir de 18h, c'est le jeu, c'est la fête, ils font des bons, enfin oui. Le saut de mouton, c'est bien connu, mais quand même, c'est tout à fait agréable de voir ces
tout
animaux, et là, on est proche de la nature, effectivement.
Oui, alors, et pour le mouton, je dirais le mouton, mais même les oies, puisque j'ai deux compagnies d'oies d'espèces différentes, et ils jouent. Je les vois jouer, ils m'invitent dans leur jeu, on se parle, moi je les appelle mes frères.
Tout à fait, ouais. Voilà. Alors, la Bretagne donc, la mer, l'intérieur, vous êtes installé, avoir de la place, et à un moment donné, retraité de la médecine, même si vous y portez encore un intérêt certain, eh bien, vous avez décider d'écrire, et comme nous tous au début, qu'est-ce qui fait que qu'on se dise, eh bien là j'ai quelque chose, j'ai envie de faire connaître aux autres.
En fait, dès l'âge de 12 ans, j'écrivais des poèmes et puis des pièces de théâtre en alexandrin, mais je ne les ai plus, mais bon. Et puis j'ai abandonné l'écriture. Je n'avais aucune prétention, et j'ai abandonné l'écriture du fait de mes études. Et puis de ma vie familiale, j'étais marié 2 fois, j'ai 5 enfants. Et puis, il y a à peu près 15-20 ans, je me suis aperçu que nous étions dépossédés de notre vie, les patients dépossédés de leur santé par le système médical, et dépossédés de la vie par les penseurs, les démiurges, par les politiciens, etc. Et je me suis dit, étant médecin, j'ai un devoir de transmission. Donc dans ma pratique médicale, j'expliquais tout. Je passais un temps énorme, c'est également pour ça que j'avais choisi d'être hospitalier et non pas rémunéré à l'acte, un temps énorme à expliquer aux gens pourquoi ils étaient malades et ce qu'ils pouvaient y faire. Et je leur disais, vous êtes votre premier médecin. Ça a été repris ensuite par des médecins qui ont écrit des livres et qui sont célèbres. Et puis, moi, j'ai commencé à faire de l'éducation thérapeutique individuelle, jusqu'au jour où, dans un centre de rééducation fonctionnelle, il m'a été donné la possibilité de faire de l'éducation thérapeutique à des groupes, même à la demande de l'ARS. Et j'ai transposé ce que je faisais, comme ce n'est pas de l'enseignement, parce que c'était vraiment très interactif, je l'ai écrit. Et je l'ai publié dans 7 livres sur vieillir, sur le suicide, sur le sommeil, sur la nutrition, etc. Et je les ai publiés, mais chez des tout petits éditeurs confidentiels, pour marquer le coup. Et à la retraite, je me suis dit, ce goût pour la transmission du savoir, qui me semble être à la base du lien social, de la démocratie, et de ce que l'on doit aux gens, hein, parce que j'ai été payé pour faire de la médecine, j'étais payé également, comme un peu les Chinois, pour faire de la prévention et de l'éducation thérapeutique, eh bien, je vais transmettre également mes idées et la façon dont je vois la vie. Et c'est là que j'ai écrit un essai qui est paru en 2020 sur « La guerre des sexes n'aura pas lieu », qui parle de la position que l'homme et la femme ont vis-à-vis du sexe qui leur est attribué par la société, après avoir été attribué par la nature, bien sûr, et qui montre que nous avons tous en nous une part de l'autre, et que ce qui fait de nous des êtres humains complets, c'est quand on assume la petite part de féminité qu'a chaque homme en lui, et la petite part de masculinité qu'a, je ne dis pas virilité, mais masculinité, qu'a la femme en elle. Et à ce moment-là, c'est sans doute d'ailleurs peut-être la meilleure part de chacun de nous, c'est celle que l'on a de l'autre et qu'il faut assumer. Donc ça, c'était le thème. Et je l'ai rédigé avec tous les arguments biologiques qui étayent mes thèses, qui sont donc indiscutables, et mais avec beaucoup d'ironie, parce que je faisais état de ce que j'ai vécu pendant mes 70 ans, depuis mon enfance. Voilà, donc j'ai commencé par ça, et après je me suis dit, je dois transmettre également autre chose, et mon écologie, ma vision du monde, qui est une vision de la joie, de l'amour, de l'amitié, de l'empathie, de l'entraide, de l'inanité de tous ces biens qu'on nous fait consommer et qui sont souvent futiles, inutiles ou superflus. Ma philosophie également de la justice sociale, mais la justice dans son ensemble, et puis du respect de l'autre. Ce sont toutes des valeurs dont je constate qu'elles se perdent, parce qu'on a mis en avant la concurrence, voire la guerre entre les gens. C'est la guerre de tous contre tous actuellement. L'argent, roi. J'ai dit donc, il faut que je transmette. Et je me suis dit, il faut que je transmette à qui? Mais aux enfants. Donc, ça m'a donné l'idée d'écrire, de commencer une saga qui s'appelle la guerre, qui s'appelle, pas la guerre, au contraire, le Kuya, la République des rats. Et dans 6 volumes, 2 sont parus, le 3e va paraître en août, je raconte l'histoire de rats qui sont chassés de la ville pour aller à la campagne, chassés par une guerre entre les clans. Et à la campagne, ils vont faire l'apprentissage de ce que c'est qu'une émigration. Ils vont devoir faire l'apprentissage d'une société, d'un environnement nouveau, qui est la campagne, pour des petits rats citadins. Ils vont faire l'apprentissage de la confrontation à des cultures différentes. Et tout cela dans le grand respect des autres, le respect d'eux-mêmes, la liberté. Et avec en plus cette question, le pouvoir pourquoi ? Et mon petit Kuya, mon petit rat, qui a été nommé à la tête de sa compagnie de rats, refuse le pouvoir. Donc il y a un petit message un peu anarchiste si l'on veut, mais c'est pour montrer que le pouvoir n'est pas indispensable. Hein, il faut, lorsqu'on est assez messianique et qu'on peut transmettre des valeurs qui permettent à un peuple de se construire, de s'établir et de vivre, il n'est pas la peine qu'il y ait quelqu'un qui assume un pouvoir et lui, il refuse le pouvoir. Donc ça, c'est un message que je voulais transmettre aux enfants.
Et vous avez choisi le rat pour le transmettre ?
J'ai choisi le rat parce que, je me demande même, est-ce que c'est au rat de montrer aux hommes quelle est la vraie vie ? Oui, j'ai choisi le rat parce que c'est une société très, très élaborée. J'ai eu beaucoup de rats quand j'étais jeune parent. Mes enfants avaient des rats, on élevait des rats domestiques qui sont d'une intelligence suprême. C'est presque avec le cochon l'animal le plus intelligent de nos régions. Je mets à part les primates et c'est un bon exemple. Mais je vois les réactions dans les salons et il y a des femmes qui arrivent, oh, je n'achèterai jamais un livre qui parle de rats, quelle horreur. Je dis, mais vous ne connaissez pas les rats. Mais les rats, bon. Donc voilà, donc j'ai voulu transmettre ça aux enfants. Et ça prend le contre-pied de toutes ces sagas animalières qui viennent d'outre-Atlantique, où ce n'est que la reproduction des sociétés ignobles, avec des conflits, des guerres. On a l'impression de voir Dallas écrit en conte animalier, quoi. Donc j'ai voulu faire ça, voilà. Et puis, la façon de transmettre, ça ne suffisait pas. Transmettre la médecine, ça s'est passé maintenant. Transmettre l'écologie aux enfants. Et je me suis dit, toutes ces valeurs, je peux les transmettre aussi, mais comment ? Je ne voulais pas être insipide et je me suis dit, je vais transmettre ça en écrivant des romans policiers. Mais romans policiers, tout le monde écrit des romans policiers, moi je vais faire différent. Et comme je suis un amoureux de la langue française, il y a une langue française qui est un peu délaissée, c'est l'argot. Voilà, les argots, parce qu'il y en a plusieurs. Et j'ai dit, je vais écrire mes romans policiers en argot. Ça a l'avantage de permettre de dire tout. C'est un bon prétexte. On peut se réfugier derrière l'argot pour dire tout. Et j'écris donc les romans, ces romans policiers, avec une intrigue policière, mais qui n'est pas celle de Agatha Christie, bien sûr, ça n'a pas cette finesse. Mais ça me permet d'écrire en argot et de dire beaucoup de choses sur notre société. Je fais une satire qui est très acide sur les institutions, sur certains de nos congénères, soit avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'irrespect. Je suis très, très, très insolente et tout. Voilà. Et mes romans, ils sont très faciles à lire, ils sont très ludiques. Et pour aider le lecteur, j'ai mis le lexique argot en bas de page, de chaque page, si bien qu'il n'y a pas besoin d'aller se référer. On comprend tout.
En même temps, c'est de l'argot-thérapie, si je peux dire.
Très bien, c'est très bien ça. Voilà, mais moi, je suis un fan de l'argot parce que tout le monde parle argot, sans le savoir.
Tout à fait.
Tout le monde parle de l'argot. même dans les sermons, dans les prêches, même dans les discours les plus éminents, même à l'Académie française, on parle argot. Et dans le dictionnaire, il y a des mots d'argot, des expressions d'argot. C'est une langue qui est goûteuse, c'est jubilatoire, et c'est une langue vivante puisqu'elle évolue. Et je prends le contre-pied de la tendance actuelle qui est à l'uniformisation des langages, surtout anglo-saxons, et surtout à la mécanisation de l'homme et de toutes les activités humaines avec cette espèce de numérisation. On bug, hein, on pète les plombs, on va sur des plateformes, etc. Je ne supporte pas. L'homme n'est pas une machine, et moi je refuse d'être un homme augmenté, connecté, ou un homme mécanisé. Et l'argot, ça permet de sortir de ça, de faire éclater ça, et c'est un petit espace de vie où on respire du bon oxygène. Et l'air de la Bretagne, c'est de l'oxygène à l'état pur, donc c'est parfait, j'ai bouclé la boucle.
L'Irlandais dirait « no problem ».
Exactement. Voilà, mais je ne sais pas si je serais bien reçu dans ce genre, je suis un peu décalé, c'est sûr, mais je revendique. Oui.
Et alors, il y a donc ce qui est écrit. Quand il faut passer après à l'édition, est-ce qu'il faut forcément retravailler un peu, raccourcir, ou est-ce que vous pensez dès le départ en fait au lecteur que c'est un acte de transmission?
Moi c'est un acte de transmission, et alors justement je préfère ne rien transmettre si je dois faire des concessions au politiquement correct, voilà. Donc moi ça sera rien ou tout,
ce qui est une qualité,
ce qui est un gros défaut commercial.
Voilà.
Bon, voilà, et c'est qui est une qualité humaine, je pense, oui. Donc moi, ça sera rien ou tout. Donc j'ai trouvé un éditeur qui ne. J'aimerais peut-être qu'il soit un peu plus directif pour les fins, parce que je transmettre c'est bien, mais il faut encore que ça soit transmis et reçu. Donc il faut que ça qu'il y ait quand même un aspect commercial manifeste.
Ouais. Hein. Chez qui alors vous publiez?
Je suis chez Sidney Laurent, qui est un éditeur qui a à peu près 1300 auteurs dans son portefeuille. Il est parisien, mais il a installé son imprimerie parce qu'il est également imprimeur. Il a les imprimeries provençales, donc il est installé près de Montpellier. Voilà, donc ça c'est bien. Mais je n'ai pas revu. Alors comment je suis passé? Eh bien, on m'a dit, ce sont des amis qui m'ont dit, mais ça tu devrais quand même. Tu sais pas parce que tu es à la retraite et que tu es maintenant un gentleman farmer, que tu t'occupes de tes moutons, qu'il faut pas continuer, tu devrais écrire. Eh bien, c'était extraordinaire. J'ai dit, bon, j'envoie mes manuscrits, j'en ai envoyé à 3. Il fallait une réponse à 6 mois. Et j'ai envoyé à celui-là par hasard. Bah, pour tout vous dire, j'ai quand même... Je me suis fié à mon inspiration, à mon intuition. J'avais la réponse sous 48 heures.
Ah oui, oui. C'est...
Et il m'a dit, bah, je prends tout. Voilà.
Ce qui est intéressant quand même, parce que 6 mois d'attente sans savoir quelle sera la réponse. Oui, souvent.
Non, il m'a dit je prends tout, et quand j'ai la deuxième fournée, je lui ai dit j'ai encore ça à écrire, si vous me donnez le titre, je signe le contrat par téléphone. Prends tout. Alors c'est très sérieux parce que je passe devant des correctrices, il y a toute la procédure habituelle, mais on ne m'a jamais demandé de reprendre un texte.
C'est ça, de changer sur le fond quelque chose.
Sur le fond, jamais.
Oui. Et les derniers livres, alors, que vous avez écrits?
Alors, les derniers livres, donc il y a eu QIA, qui était en août dernier, et il y a eu 3 romans policiers en argot, non, 2 en argot et 1 qui n'est pas en argot, qui sont parus en fin d'année, là. Alors, il y a du poison, comme un poison dans l'eau, c'est une histoire de terroriste. Alors, c'est très décalé, très impertinent, c'est même un peu la guerre des polices. Il y a Ice Cream à l'italienne. Alors il y a le mot, le jeu de mots bien sûr, ice, glace, crime, comme un crime, et à l'italienne parce que ça se passe à Courchevel et après en Italie. C'est une histoire avec la mafia et la collusion politique-mafia. Et puis il y a L'encou derrière la porte, sur laquelle je vais revenir. Et là je viens de donner à publier, ça va se faire dans le trimestre, du Rififi chez les viandards, c'est encore un policier en argot, le thème la chasse, la grande chasse. Et il y a un plaidoyer pour la vie et pour la terre, qui est le tome 1 de mon manifeste écologique, et qui sera suivi par un tome 2 en fin d'année ou en début d'année prochaine, sur lequel je travaille.
Je vous rappelle que nous recevons Bruno Pinel, qui est donc l'auteur de tous ces ouvrages qu'il vient de citer. Il est en direct avec nous, et c'est un grand plaisir. Et puis, on se régale, en fait, de ces informations, de tout ce qu'il fait, voilà. Et également de tous ces ouvrages. Et maintenant, vous allez nous parler d'un autre, alors,
alors il
dont
y a...
vous avez bien parlé.
Voilà, donc j'ai parlé tout à l'heure de Cuyahlera pour les adolescents, et là je vais parler de L'Ankou derrière la porte. Eh bien, c'est un policier également en argot qui est un peu spécial parce que l'intrigue policière, c'est une enquête que fait mon commissaire fétiche qui est un peu hors norme. Il n'y a pas de poursuite en voiture, il n'y a pas de tuerie, il n'y a rien. Et c'est inspiré d'un fait divers qui est vécu, que j'ai vécu de près, qui concerne la sorcellerie. Voilà. Et c'est en fait mon policier qui est appelé au secours par un de ses amis qui est un lanceur d'alerte et qui vit en Bretagne et qui se croit victime de L'Ankou. Il a beaucoup de raisons d'être poursuivi par des adversaires parce qu'il est lanceur d'alerte. Et en fait, il s'avère qu'il est victime d'un sortilège, de maléfice. Et mon commissaire, lors de sa venue pour l'aider, va réussir à dénouer le mystère. Et il va y avoir... Donc, je vais parler de la sorcellerie, je vais parler des lanceurs d'alerte, et je vais parler de la Bretagne profonde. Et j'en fais une belle description. Je montre tout mon amour pour la Bretagne, pour ses paysages. Et
les intersignes des animaux qui apparaissent ou des signes qu'on voit avant la mort, des signes avant-coureurs, vous en parlez un peu ?
Non, j'ai pas voulu faire un livre sur la sorcellerie. Je suis obligé de ne pas dire tout. Là, j'ai une réserve parce que je ne peux pas parler de tout. Je décris un peu les phénomènes de sorcellerie et je décris le processus, les raisons et le processus d'élimination du sorcier, mais sans donner les moyens physiques ou paraphysiques.
On parlait parfois de ceux qui savaient lire à l'envers pour éliminer les...
Oui, démons. Oui. Non, mais je crois que moi qui étais au départ très rationnel, mais pas au sens cartésien, parce que Descartes est certainement quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à l'humanité, j'étais rationnel et pour moi c'était quelque chose de... Ça relevait du fantasme et je me suis aperçu en étant plongé dans la situation et en Bretagne que non. Et là, je me suis mis à... Et c'est très proche de la médecine d'ailleurs, et des médecines parallèles. Je me suis mis à m'intéresser à l'homéopathie, à l'acupuncture, à la médecine chinoise que je pratique, et à la physique quantique. Et la physique quantique explique un peu tout ça. Voilà. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que on ne joue pas avec ce genre de choses.
C'est ça, voilà. on ne joue pas avec ça.
Non, parce que quelqu'un qui voudrait l'utiliser, pas forcément à des fins bénéfiques, il ferait beaucoup de dégâts. Donc, on ne peut pas en parler dans le détail. Quoi.
C'est un peu comme la barque des trépassés en bord de mer.
Oui, c'est ça.
Parfois, on entend un peu de bruit, un bruissement sur l'eau, de nuit, comme ça. Et en fait, ce sont les âmes des trépassés qui se promènent sur leur bateau. Et il est conseillé fortement, fortement de ne pas s'adresser à eux. Parce que parfois, il y en a un qui peut vouloir qu'on prenne sa place.
Exactement.
Dit,
mais ça, c'est L'Ankou aussi.
L'Ankou aussi. De la mer. Et il y a un mot important pour ça. On respecte ces choses-là.
Oui. Je crois que la science des hommes, elle est immense, mais elle n'a pas encore regardé derrière le miroir. Et voilà. Et on découvre. Mais il y a des physiciens qui s'intéressent à la médecine, à la physique quantique. Et ils savent des choses. C'est encore trop tôt pour le dire. Mais il y a beaucoup de phénomènes qui s'expliquent et qui sont purement physiques. Mais avec la physique quantique, on peut faire beaucoup de dégâts.
Ah ouais. Mais il faudra oser, à un moment donné, dire peut-être ce que la majorité ou la science dominante ne dit pas.
Ben, j'ose le dire. Je dis que c'est... Pour la médecine, puisque je connais bien la médecine, je dis effectivement que la médecine conventionnelle s'est mis des œillères et que nous sommes dans un système de la pensée unique, qu'elle soit écologique, économique, financière, enfin bien sûr, politique et physique. Et on refuse, mais on a bien refusé que la Terre était ronde. On a bien refusé beaucoup de choses à une époque. Il faudra le faire, mais je pense que là, l'humanité est partie dans une voie qui est parti dans le mur, et ce n'est pas le moment de dévoiler tout ça.
Nous approchons de la fin de notre mission. Vous voulez ajouter quelque chose ?
Ben moi, j'écris pour transmettre, donc j'espère que ça va être transmis, que ça va être beaucoup lu, et j'accepte toutes les critiques. Mes ouvrages sont des divertissements, mais ils sont éducatifs. Alors, ils ne sont pas chiants, comme on dit, parce que j'ai voulu que ça soit très ludique. Et en plus, je veux faire la promotion de l'argot pour prendre le contre-pied de ce... Le verlan, c'est un argot, hein. Donc pas pour prendre le contre-pied du verlan, mais le contre-pied de toute cette façon de parler, le langage SMS, LOL, etc., le langage anglo-saxon, les inis... Et surtout l'espèce de mécanisation et d'uniformisation de notre langue. La langue française est une des plus riches au monde, et l'argot est une langue littéraire. Mes correctrices me disent, oui, ce sont pourtant des diplômés de lettres françaises, ils disent, oui, l'argot est une langue à part entière, donc je vais continuer à écrire.
Merci à vous, Bruno Pinel, et continuez dans cette direction. Tous vos livres sont disponibles, bien entendu, en librairie. Alors, vous avez eu les titres. L'éditeur, c'est Sidney Laurent. Vous pouvez donc vous procurer tous ses ouvrages. C'était Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Nous recevions Bruno Pinel.
Merci beaucoup.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.